Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, y a-t-il une moindre tolérance à la corruption ? Il était, paraît-il, un modèle de probité, un policier intègre. José Mariano Beltrame, en charge de la sécurité à Rio pendant 10 ans, est à son tour soupçonné de corruption. Il aurait touché des pots de vin pendant la durée de son mandat. Nouvelle affaire dans un pays, le Brésil, où personne parmi les élites ne semble épargné par la lame de fond des affaires. Une lame de fond qui éclabousse l'ensemble de l'Amérique latine et à laquelle aucun continent ni aucun pays ne paraît échapper. Il y a un mois, l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée à 24 ans de prison pour abus de pouvoir et corruption. Dimanche dernier à Malte, des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer justice, plusieurs mois après l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur un vaste système de corruption. En France, l'homme d'affaires Vincent Bolloré a été mis en examen le 25 avril dans le cadre de ses activités africaines pour corruption d'agents publics étrangers. Alors impossible de dresser une liste exhaustive, on peut y voir dans cette profusion d'affaires la propagation d'un mal presque impossible à stopper. On peut aussi voir le résultat d'une prise de conscience. Si ces affaires sortent désormais, c'est parce que la corruption serait de moins en moins supportée et donc de mieux en mieux combattue. Mais est-ce vraiment le cas ? Y a-t-il une moindre tolérance à la corruption ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Catherine Pierce, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la vice-présidente de Transparency International France, qui est une ONG internationale. Vous êtes ancienne magistrate. Vous avez notamment présidé l'une des deux chambres pénales financières du tribunal de grande instance de Nanterre. Pour discuter avec vous, Nicolas Bonucci, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des affaires juridiques de l'OCDE. L'OCDE, je le rappelle, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous y êtes par ailleurs coordinateur de l'adhésion. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est moi qui supervise les processus d'adhésion des pays membres à l'OCDE.
Voilà, l'OCDE qui a une convention sur la lutte contre la corruption, c'est d'ailleurs le seul...
Sur la corruption transnationale.
Voilà, hein. Le seul instrument qui existe à ce jour en la matière.
Spécialisé sur ces questions-là, oui.
Troisième invité, Carole Gomez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous venez de publier, en compagnie de Sylvie Matelli, Argent sale, à qui profite le crime, aux éditions Erol. Et puis on vous doit également un dossier dans la revue internationale et stratégique, c'était en 2016. Corruption, phénomène ancien, problème nouveau. Alors phénomène ancien, on pourrait se dire, donc notion particulièrement bien connue. C'est vrai, quand on parle de corruption, a priori, on sait de quoi on parle, sauf que quand on commence à vouloir la définir, c'est beaucoup plus compliqué, Carole Gomez.
Oui, bien évidemment, puisqu'au final, chacun, en fonction des domaines, en fonction des pays, va pouvoir donner une définition différente. Il y avait Thierry Minissier qui avait cette formule qui était, je trouve, assez pertinente, c'était de savoir que la définition était un mal qui était aussi intuitivement parlant que mal défini. Chacun va avoir sa propre définition, chacun va avoir sa propre conception de la corruption, il va y avoir des services qu'on va considérer comme corruption, parfois d'autres non.
Quelle est la définition que vous avez de la corruption, vous, à Transparency International, Catherine Pierce ?
Pour nous, la corruption, c'est le détournement à des fins privées d'un pouvoir reçu en délégation.
Alors, détournement d'un pouvoir privé ?
Non, détournement non. À des fins privées.
À des fins privées.
D'un pouvoir reçu en délégation.
Ça veut dire qu'on peut le résumer par, des commissions occultes,
absolument,
par des pots de vin, ça rentre dans cette définition-là.
Tout à fait. Utiliser par exemple le pouvoir que l'on a de délivrer des visas ou de délivrer des diplômes universitaires, moyennant des finances ou un avantage quelconque.
Donc finalement, bon, c'est une définition qu'elle mérite d'embrasser peut-être des formes de corruption assez larges. Est-ce qu'à l'OCDE, on est sur la même approche, Nicolas Bonucci ?
Alors, à l'OCDE, comme d'ailleurs toutes les autres conventions internationales en matière de lutte contre la corruption, qui ont d'ailleurs proliféré dans les 20 dernières années, on pourra en dire un mot, il n'y a pas de définition du mot corruption, pour les raisons expliquées par Carole, c'est-à-dire qu'il aurait été pratiquement impossible d'arriver à un consensus multilatéral sur cette terminologie. Et donc, on a approché la question plutôt sur la description de l'action. Donc il y a une définition dans l'article 1 de la Convention, mais qui est le fait de offrir, promettre ou payer par tout moyen que ce soit, de façon directe, indirecte. C'est la difficulté de la chose. Comme vous l'avez dit, la frontière est extrêmement difficile. Il y a des autres aspects de l'interaction entre le public et le privé, si on se focalise uniquement sur ça, qui sont à la limite de ce que pourrait être la corruption, le lobbying, le pantouflage, les allers-retours entre public et privé. Donc c'est extrêmement difficile à définir et c'est pour ça que ça n'a pas été défini de façon internationale.
C'est peut-être d'autant plus difficile que les formes de corruption peuvent évoluer et aussi leur perception. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses, Catherine Pierce, qu'on considérait comme ne faisant pas partie de la corruption, je sais pas, il y a quelques années, puis qui aujourd'hui sont intégrées dans cette forme-là, et peut-être d'autres et des formes de corruption beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus visibles, qui aujourd'hui d'ailleurs n'existent peut-être plus parce que trop visibles.
Je ne pense pas que les formes de corruption aient disparu, si vous voulez. Je ne pense pas que les définitions de formes de corruption aient disparu. Je pense qu'il y a peut-être eu, il y a de nouvelles formes, certainement, de corruption. Et comme je rejoins Nicolas Bonassi là-dessus, effectivement, maintenant, tout ce qui touche le favoritisme, le lobbying lorsqu'il est mal fait, enfin bon, la prise illégale, enfin les conflits d'intérêts, tout cela pour nous maintenant rentre effectivement dans le domaine de la corruption, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Bon, mais je vais prendre un exemple qui est dans l'actualité aujourd'hui, qui est dans un article, une enquête du journal Le Monde, où les journalistes ont ausculté les dépenses de campagne de l'équipe d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, d'où il apparaît qu'il y a des prestations d'une société d'événementiel qui ont été facturées, mais à prix d'amis, disons à prix réduit. Est-ce que ça, par exemple, Carole Gomez, ça peut, alors il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu corruption, mais est-ce que ça peut, en tout cas, entrer ce genre de pratique dans la définition de la corruption?
Alors ça va être extrêmement compliqué puisqu'il va falloir voir quels sont les acteurs qui sont en présence, est-ce qu'il y a eu des moyens de pression ou pas qui ont été mis en œuvre, quels ont été tout le contexte en fait tout autour de ces questions-là. Peut-être pour répondre à votre précédente question, là aussi où ce qui est intéressant de voir, c'est le seuil de tolérance qui a véritablement plutôt évolué et qui s'est clairement durci. Un exemple qu'on donne souvent et qui est assez symptomatique, il y a encore de ça une vingtaine, trentaine d'années, les pots de vin étaient déductible des impôts. Une entreprise française qui, alors à l'international, c'était quelque chose qui aujourd'hui n'est plus du tout tolérable, qui aujourd'hui même est tolérable, mais surtout sanctionné. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était au final, somme toute, assez commune parce que ça permettait de tenir des marchés peut-être un peu plus facilement.
Permettez-moi de vous interrompre, Carole, c'était pas seulement toléré,
c'était
déductible à des fins fiscales dans des pays comme la France et l'Allemagne, tout à fait officiellement et tout à fait légalement. Et c'est une des grandes, c'est la grande introduction de la Convention OCDE. C'est jusqu'en 97, si vous alliez payer un pot de vin en tant qu'entreprise parisienne à Marseille, vous pouviez être poursuivi pour corruption. Vous payez un pot de vin à un agent public marseillais. Si vous alliez de Paris à Bruxelles, c'est-à-dire trois fois moins loin qu'à Marseille, vous n'étiez pas poursuivible parce que ce n'était pas un crime, ce n'était pas une infraction de payer un pot de vin à l'étranger. Non seulement parce que ce n'était pas une infraction, le pot de vin que vous payez aux fonctionnaires belges pouvait être déductible à des fins fiscales. Donc rien que ça, ça a été une révolution.
Et qu'est-ce qui fait que cette révolution a pu avoir lieu, qu'on a peut-être une approche un peu plus harmonisée, on va dire, de ce qu'est la corruption aujourd'hui, Catherine Pierce?
Je pense que c'est effectivement la non-tolérance de la corruption qui est apparue à ce moment-là.
Mais pourquoi cette non-tolérance? Pourquoi est-ce que l'on tolérait à une époque, on le tolérerait moins désormais?
Je pense que Nicolas Bonucci, c'est peut-être un des aspects positifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, de la globalisation. Le monde s'est tellement ouvert, s'est tellement internationalisé, la concurrence est devenue tellement féroce, et c'est peut-être pour ça aussi que l'OCDE s'est emparé de ce sujet en 97, et d'ailleurs même avant, parce qu'on a commencé nos travaux à la fin des années 80, parce que justement il y avait une question aussi de libre concurrence et de concurrence non faussée. Je crois que ce qui est remarquable depuis 97 à aujourd'hui, c'est que cette question est passée d'un point de vue éthique et moral à un point de vue économique, mais maintenant ça rejoint un point de vue qui va au-delà de ça et qui rejoint la confiance dans les institutions publiques. Et ça, c'est peut-être l'évolution la plus récente et celle qui explique aussi le mieux cette intolérance nouvelle.
C'est d'ailleurs ce que dit Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international. Elle dit que la corruption affecte les pauvres et sape la confiance dans les institutions. Donc il y a, alors, en plus de la dimension morale que vous avez évoquée et de la dimension économique, a aussi une dimension politique et une dimension sociale, Carole Gomez.
Oui, alors en fait, ce qui a déjà été dit, ce qui est aussi important de rappeler, c'est la crise économique de 2007 qui a considérablement affaibli l'ensemble des populations et les différentes couches. Donc du coup, ce qui au départ était tolérable, puisqu'on savait que d'une part, on allait pouvoir arriver à récupérer un certain nombre d'éléments, du jour au lendemain, n'est devenu plus véritablement envisageable. Et c'est ce que Georges Coufignal disait concernant l'Amérique latine, ce qui était toléré, la corruption qui pouvait être tolérée par certains biais auparavant, puisqu'on savait que, bon gré mal gré, ça pouvait permettre au gouvernement d'avancer, de faire des réformes. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus du tout le cas. Et donc, il y a non seulement cette crise économique, mais d'autre part, il y a de plus en plus d'études sociologiques, mais aussi économiques, qui prouvent que la corruption est un mal qui pervertit la société. Ça n'est plus... on avait un peu cette image d'Épinal qui disait que ça permettait de rajouter un peu d'huile dans les rouages et qui permettait de faciliter un certain nombre de transactions ou de politiques. Aujourd'hui, il est démontré que c'est plus du tout le cas et qu'il y a justement un coût de la corruption qui est extrêmement important, et un certain nombre d'études ont démontré en France, en Italie, en Europe, au niveau du monde, le coût que peut représenter la corruption et qui se chiffre en milliards parfois d'euros.
Et un coût qui serait d'abord porté par les plus pauvres, c'est ce que dit Christine Lagarde, la patronne du FMI, Catherine Pierce. Pour quelle raison ce seraient les plus pauvres qui subiraient le plus les effets de la corruption?
D'abord, je voudrais dire que la corruption qu'on a chiffrée, c'est la Banque mondiale a chiffré ça en 2016, c'est 2000 milliards de dollars par an. En Europe, simplement 120 milliards de dollars, d'euros, pardon. Et en France, la fraude fiscale, 40 à 50 milliards de dollars, d'euros, chaque année. Voilà, donc c'est effectivement, quand on voit ces chiffres, ça donne un peu le vertige, c'est quand même 5% du PIB mondial.
Mais quand vous dites alors, par exemple, 2000 milliards de dollars, ça veut dire que c'est 2000 milliards de dollars
qui sont des fonds qui ont servi à la corruption. Ils ont servi à la corruption.
Et s'ils n'avaient pas servi à la corruption, ils seraient allés où? Ils auraient été utilisés comment? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer que ce sont peut-être les plus démunis, les plus modestes,
ils
qui du coup
sans
en sont privés?
Effectivement, il est certain. Enfin, nous faisons, nous chez Transparency, une relation directe entre la corruption et la pauvreté, et également les violations des droits de l'homme. Et bon, je ne veux pas toujours prendre pour exemple l'Afrique, mais on voit bien, si vous voulez, que la corruption que nous avons dénoncé notamment par l'affaire des biens mal acquis, démontre que dans ces pays qui sont la Guinée équatoriale, le Gabon, etc., ce sont des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'en fait, ils bénéficient d'énormes ressources naturelles et qu'ils devraient donc être des pays où les gens vivent à peu près normalement.
Voilà, l'affaire des biens mal acquis, dont le procès a eu lieu l'été dernier, qui était un événement très important en matière de lutte contre la corruption, pour lequel Transparency International a obtenu
un jugement en octobre dernier qui a condamné le monsieur Obiang pour blanchiment et recel des tournements de fonds publics, et qui a saisi les biens qu'il avait en France et qui se montent à environ entre 150 et 200 millions d'euros.
Nicolas Bonucci, l'argent de la corruption, c'est de l'argent qui devrait par exemple aller dans les infrastructures, dans les programmes gouvernementaux, et qui n'y va pas, et qui du coup prive ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus pauvres?
Alors, l'argent de la corruption, en effet, devrait aller dans les infrastructures, il y va d'ailleurs, mais pas forcément dans les meilleures infrastructures, pas forcément dans des choix qui sont des choix d'une logique de politique d'État. Il y va par des différents moyens. Ça entraîne un surcoût. On a calculé à l'OCDE un surcoût moyen de tous les marchés publics entre 5 et 15% en cas de corruption, avec parfois des montées jusqu'à 30%.
Donc s'il y a surcoût, ça veut dire que ces services publics ils vont être plus chers?
Non, l'infrastructure va être plus chère, et l'infrastructure sera très probablement de moins bonne qualité. C'est-à-dire que, de toute façon, le budget de l'État étant ce qu'il est, tout le monde va rogner. Et donc, si vous faites une route, au lieu de faire un goudron de 5 cm, vous le faites de 2. Et donc, 3 ans après, la route, elle est totalement inutilisable. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme je l'ai dit, ça ne va pas forcément dans les infrastructures qui sont les plus utiles au pays, mais celles qui peuvent générer le plus de pots de vin, ou celles qui permettent à un élu local de se faire réélire, parce que beaucoup passent aussi par le lien avec le politique, tant au niveau local qu'au niveau transnational. Et donc, vous avez une mauvaise allocation des ressources, et vous avez aussi une mauvaise redistribution des richesses, qui, dans les cas les plus flagrants, comme le cas de la Tunisie, aboutit à pratiquement une capture de l'État par une famille, ou le cas de la Guinée équatoriale qu'a évoqué Catherine. C'est même pas du policy capture, c'est du state capture, excusez-moi d'utiliser la terminologie anglaise, mais de la capture d'État par une famille ou quelques familles claniques qui, en fait, les richesses sont là, mais elles ne sont pas redistribuées.
Vous évoquez le cas de la Tunisie. Il y a eu, ça a été le premier pays des printemps arabes. Les printemps arabes, ça peut être une des manifestations, justement, de sorte de réveil de la société civile contre la corruption, Carole Gomez. Et c'est ce qu'on continue peut-être aussi à voir aujourd'hui dans un certain nombre de pays, c'est-à-dire une population, une société civile qui se mobilise parce qu'elle ne supporte plus, justement, ces dérives-là.
C'est ça. Et au final, le point de départ de la révolution en Tunisie, c'était le fait qu'un vendeur soit arrêté, qu'on lui saisisse sa marchandise et qu'il y ait des affaires avec les policiers tunisiens qui étaient impliqués sur cette question-là. Et ça, ça a vraiment été cette intolérance à la situation, à l'injustice, à la corruption, au final presque officielle, des différents détenteurs du pouvoir. Et donc c'est cet élément-là, cette arrestation-là, cette saisie-là a été l'élément, l'étincelle qui a pu déclencher les révolutions, du moins en Tunisie, et qui ensuite après s'est répandue dans différents autres pays. Ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a de plus en plus, et on l'observe dans le domaine de la corruption, mais de façon aussi dans d'autres éléments, un véritable réveil de la société civile, et Transparency International en est la parfaite illustration, de l'importance que qu'a la société civile sur ces sujets-là, et surtout le poids qu'elle doit apporter dans les différents combats qui vont être menés, puisqu'elle fait partie, elle est à part entière, et c'est un acteur à part entière qu'on a souvent tendance à oublier. On parle beaucoup des États, on parle beaucoup des conventions qui peuvent être prises au niveau interétatique, mais au final, c'est aussi porté par des ONG, ça va être aussi porté par des leaders qui vont arriver à porter cette question-là.
Catherine Pierce, oui, justement, Transparency International, oui, la société civile, c'est vraiment le socle sur lequel vous vous appuyez pour porter vos projets
tout
et
à
vos
fait,
dossiers.
Tout à fait. Il faut rappeler que Transparency International a été créé par un ancien dirigeant de la Banque mondiale qui, ayant été à ce poste pendant un certain nombre d'années, a vu les dégâts effectivement provoqués par la corruption et qui a décidé de créer une ONG internationale qui s'attacherait à lutter contre cette corruption. Et nous sommes actuellement effectivement présents dans plus de 100 pays dans le monde.
Si ça finit pas par porter parfois au niveau politique, est-ce que c'est justement parce qu'il y a peut-être une crainte de voir des sociétés qui se révoltent contre ces phénomènes de corruption, Catherine Pierce, ou bien est-ce que c'est parce que finalement les dirigeants politiques finissent par se rendre compte que ça fait aussi du mal à la société?
Ah ben je pense que l'action d'organisations comme la nôtre est extrêmement utile, est entendue d'ailleurs par les gouvernements. Actuellement, je peux vous dire que concernant la loi Sapin 2, nous avons été sans cesse consultés, tant par les parlementaires que par les gouvernements. Là, actuellement, nous sommes en train d'essayer de sortir une loi justement pour savoir quoi faire de tous les avoirs qui sont saisis et que nous voudrions voir repartir vers les populations qui ont été victimes. Eh bien, là encore, nous sommes en contact permanent avec les différents membres du gouvernement, avec les parlementaires qui écoutent les suggestions que l'on leur fait et qui parfois les suivent, même souvent.
La loi Sapin 2, elle date de 2016, loi pour la transparence et la lutte contre la corruption, qui a vu notamment la création d'une agence française anti-corruption. Alors il y a ces dispositifs législatifs, et puis il y a notamment cette convention de l'OCDE que j'évoquais en début d'émission, Nicolas Bonucci, convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption. Elle date de quand, cette convention? Et surtout, elle sert à quoi? Est-ce que c'est un instrument juridique contraignant? Est-ce que c'est
tout
un instrument
incitatif?
C'est
un instrument juridique contraignant. C'est donc la seule convention internationale qui vise explicitement la corruption internationale, transnationale, et qui vise ce qu'on appelle la corruption active, c'est-à-dire qui vise le corrupteur et non pas le corrompu. Et c'est important parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, jusqu'à il y a 20 ans, le fait de payer des pots de vin à l'étranger n'était pas poursuivi dans aucun pays du monde, à l'exception des États-Unis. Mais je dirais que la grande valeur ajoutée de la Convention, au-delà du texte lui-même, c'est le système de suivi qui a été mis en place. Et la loi Sapin 2, d'ailleurs, en est un parfait exemple, parce que la France a été donc examinée à plusieurs reprises par l'OCDE en matière de suivi et de mise en œuvre de la Convention, et a été, mal notée.
Vous pouvez dire que nous sommes vraiment le mauvais élève de la classe.
Et de plus en plus mal notée, à tel point que la pression internationale a fait que le gouvernement français s'est rendu compte que l'image de la France et l'image des entreprises françaises commençaient à en pâtir. Et ça a été un des éléments, d'ailleurs dans l'exposé des motifs de la loi Sapin 2, vous voyez qu'il est fait référence à nombreuses reprises à la Convention OCDE. Donc cette pression... Pour revenir à la question de la tolérance que vous posiez, et je crois qu'elle est vraiment très importante, et ma réponse est oui, manifestement oui, franc et massif, comme on disait. Et elle vient de différents niveaux, elle vient de la société civile, elle vient de l'opinion publique, même plus généralement, la société civile organisée, mais l'opinion publique, qui accepte beaucoup moins, comme le disait Carole, ces petits compromis du quotidien qu'on acceptait dans le passé. Elle vient d'en haut, des organismes internationaux comme nous. Et donc, les États se retrouvent dans une sorte d'étau entre le bas qui gronde et les organisations internationales qui poussent.
Tous les pays membres de l'OCDE sont soumis à cette convention.
Tous les pays membres de l'OCDE sont soumis à cette convention.
Plus quelques autres, c'est ça.
Et plus,
dans le Brésil, j'ai vu.
Dans le Brésil, et qui est d'ailleurs... L'affaire Lavajato est très...
Lavajato, c'est cette vaste affaire de corruption qui dure depuis des années.
Mais qui a débouché aussi sur une autre affaire de l'entreprise de BTP qui s'appelle Oberdrecht, qui est une classique affaire de corruption internationale. Parce qu'on parle du Brésil, mais en fait, cette affaire de corruption, maintenant, elle a pollué toute l'Amérique latine. Vous avez plusieurs présidents du Pérou qui sont en prison. Pratiquement toutes les élites d'Amérique latine sont impactées par cette affaire.
Carole Gomez.
Oui, ce qui est intéressant, et il y a un mot qui a été prononcé jusqu'à présent, c'est le terme entreprise. On a parlé de la société civile, on a parlé des États, on a parlé des organisations internationales ou interétatiques, mais les entreprises, en fait, se sont rendues compte qu'elles avaient elles aussi un rôle à jouer au nom de cette question d'image, avec notamment le développement des techniques de naming and shaming qu'elles doivent désormais affronter.
Alors, naming and shaming, c'est-à-dire
ça veut dire on va pointer du doigt une pratique réalisée par une telle ou telle entreprise sur tel ou tel territoire pour telle ou telle opération. Et donc du coup, ça va faire une mauvaise publicité qui va avoir tendance à complètement discréditer une entreprise sur tel ou tel sujet.
J'ai vu qu'il y avait une norme ISO, alors la norme ISO 37001, voilà, qui garantit la politique anticorruption de l'entreprise. Voilà, ce genre de norme internationale, c'est aussi utile pour faire prendre conscience, c'est-à-dire un des acteurs dont
les entreprises. C'est une façon, comme une autre, c'est un instrument comme une autre, accompagné d'autres éléments.
Là où il y a corrompu, il y a corrupteur. Donc, à la fin, si on met l'accent seulement sur le corrompu, ça ne va pas. Si on met l'accent seulement sur le corrupteur, ça ne va pas non plus. Et de ce point de vue-là, en effet, ce qu'a fait TI en matière de
TI, c'est Transparency International.
Transparency International dans l'affaire des biens mal acquis est extrêmement bienvenu. Parce que souvent, et c'est une des grandes difficultés aussi, c'est que dans certains pays, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont, il est extrêmement difficile de faire des affaires de façon propre parce que vous avez des pays... comme ceux que nous vous avons cités, la Guinée équatoriale aujourd'hui, mais on peut penser à d'autres, dans laquelle la corruption est tellement systémique que les entreprises ont le choix soit de ne pas rentrer dans le pays du tout, mais du coup, l'aspect pervers, c'est que les seules entreprises qui vont rentrer dans ce pays, c'est les entreprises qui ne sont pas saines, justement, ou alors de se protéger autant qu'elles peuvent.
Cette idée d'avoir alors peut-être une forme de label qui prouve que l'on est absolument vertueux en la matière, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous,
oui,
Catherine
Pierce. C'est d'ailleurs un des éléments de la loi Sapin 2 qui a établi que les entreprises au-delà de 500 salariés, au-delà d'un certain nombre d'un certain chiffre d'affaires, sont obligées désormais de se doter d'un code d'éthique, je dirais, et qu'ils doivent respecter, qui est surveillé. Et et je crois que dans chaque entreprise maintenant, on est en train de mettre en place une politique pour effectivement une politique anticorruption pour former les gens et de façon à ce qu'ils puissent efficacement lutter contre la corruption et avoir l'idée qu'il faut le faire.
Et puis parce que former les gens, ça peut être aussi pour que les gens se rendent compte qu'ils sont peut-être parfois dans des situations de corruption. C'est-à-dire que, puisqu'on parle ce soir de la prise de conscience aussi de la corruption, est-ce qu'il y a peut-être des cas d'entreprise où, de la même manière, c'est que chez Molière, on faisait de la prose sans le savoir, là, on faisait de la corruption, en tout cas, on se laissait corrompre parfois sans en être tout à fait conscient.
Combien de fois encore nous entendons, nous, chez Transparency, écoutez, oui, mais enfin, bon, si on ne paye pas, on n'a pas le marché. Donc, vous nous faites faire, c'est en fait de la concurrence déloyale. Et ça, c'est encore quelque chose qui existe, de moins en moins. Et on a l'exemple d'un certain nombre de grosses entreprises qui ont décidé de ne pas payer, qui sont quand même allés faire des marchés, qui ont perdu, effectivement, la première année, entre 5 et 10% de leur marché, mais qui rattrapaient, puisqu'ils ne payaient pas les pots de vin. Donc finalement, au bout du compte, ils se sont retrouvés en gagnant, parce qu'ensuite, par la suite, effectivement, ils avaient cette notoriété, ce label d'être incorruptibles.
Carole Gomez.
Oui, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment la question de la formation qui est... considérable, et c'est aussi le rôle de Transparency International, de l'OCDE, d'agir dans ce sens-là. Le mythe de la mallette remplie d'argent qu'on va transporter au fin fond d'une jungle, c'est tellement cliché qu'au final, tout le monde va dire évidemment que je ne me suis pas laissé corrompre. Mais en fait, quand on commence à regarder...
Ça veut dire que ça n'existe plus.
Si, mais c'est encore quelque chose qui reste un peu exceptionnel par rapport à d'autres types de corruption qui peuvent passer par promettre un emploi à l'enfant du directeur puisqu'on sait qu'il est au chômage depuis un certain nombre d'années. C'est faire parvenir des invitations, faire parvenir des cadeaux, faire une espèce de processus d'échange, de bons procédés, on va dire. Et pour ce type, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont de plus en plus développés pour essayer de faire prendre conscience de ça. Il y a un serious game qui a été lancé sur une plateforme. Alors de mémoire, le titre s'appelle Le bon, la brute et le comptable. Et qui en fait fait... vous êtes directrice de cabinet d'un maire et vous devez faire face à un certain nombre de situations. Là, vous devez prendre différents indicateurs en jeu. Et le but du jeu, c'est de rester, soit vous vous faites virer au bout d'un an, soit au contraire, votre carrière est longue et pas vraiment vertueuse.
Est-ce que ça peut vouloir dire, Nicolas Bonucci, que le meilleur moyen pour lutter contre la corruption, c'est d'abord de faire de la prévention plutôt que de passer par une sanction qui peut être une sanction pénale? On l'a vu, hein, j'évoquais là aussi en début d'émission le procès et le jugement contre l'ancienne présidente sud-coréenne, 24 ans de prison, jugement qui se veut et qui est présenté comme exemplaire. Ce qui peut avoir aussi une forme de une dimension pédagogique, hein, d'ailleurs, hein, comme toutes les décisions de justice.
Mais... écoutez, absolument, je pense qu'il y a un parallèle évident que l'on peut faire, c'est dans cette question de la lutte contre la corruption et l'aspect de la prévention, c'est avec la santé publique. Un euro investi en matière de prévention de santé publique est beaucoup plus efficace qu'un euro investi dans le curatif. La lutte contre la corruption, c'est la même chose. Un euro investi dans la prévention est beaucoup plus utile et aura beaucoup plus d'effets de levier qu'un euro investi dans le curatif. Maintenant,
ouais, mais c'est santé publique. Si vous me dites ça, moi, je vais vous dire, ok, je vais comprendre que la prévention c'est mieux parce que je vais pas tomber malade. Mais quel intérêt j'ai moi à ne pas corrompre, ne pas me laisser corrompre?
L'intérêt que vous avez, c'est, sauf si vous êtes vous-même en effet incorrompu, mais l'intérêt que vous avez, c'est l'intérêt d'avoir une société qui est plus équitable, qui est plus juste, dans laquelle les règles sont plus claires, qui, à la fin, aura un retour sur investissement. Moi, il y a une chose...
Mais je vais vous dire, ouais, moi, la société équitable, bon, je m'en fiche, du moment que je gagne l'argent...
Sauf que vous aurez votre marché à un prix normal.
Sauf que c'est du court-termisme. C'est-à-dire, il y a une affaire très ancienne qui est symptomatique, qui est une affaire d'un pauvre investisseur qui avait investi dans les duty-free de Nairobi et Mumbai il y a longtemps, qui avait commencé à payer des pots de vin. Et il les a payés jusqu'au moment où il ne pouvait plus les payer. Il s'est fait exproprier. Il est ensuite allé se plaindre devant les tribunaux. Il a fait l'erreur de dire qu'il avait payé des pots de vin pour avoir le contrat et les tribunaux ont décrété à juste titre, si le contrat avait été obtenu par corruption, tant pis pour vous. Donc, à la fin, la corruption, même pour les entreprises, c'est un frein à l'investissement et c'est un frein à l'innovation. Parce que donne comme objectif d'avoir des marchés uniquement par ce biais-là, mais non pas parce qu'on a les meilleurs produits.
Ça a été le cas dans l'affaire Siemens, qui leur a coûté quand même des sommes folles, c'était presque 2 milliards de dollars. Et ils se sont rendus compte, au bout du compte, que effectivement, comme ils obtenaient leur marché avec des pots de vin, eh bien, ils n'investissaient pas suffisamment dans la recherche, et qu'ils se sont retrouvés quelque peu obsolètes. Ils n'étaient plus du tout suffisamment concurrentiels par rapport.
Du coup, le pot de vin a augmenté parce qu'il fallait compenser de plus en plus la perte d'innovation par le pot de vin.
Voilà. Donc après, ils se sont dit qu'il fallait, il était préférable. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas eu le choix, mais il était préférable de se lancer effectivement dans l'innovation. Et ils ont fait.
Ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y a eu une décision de justice ou parce qu'il y a eu une transaction.
Non. Enfin, il y a eu des décisions de justice. Il y a plusieurs dirigeants qui se sont retrouvés en prison. Ils ont été. Alors là, c'est le cas effectivement de ce qui va se passer maintenant avec la loi Sapin 2. Ils ont été audités. Enfin, il y a eu un audit et puis ensuite il y a eu un suivi pendant un certain nombre d'années par. Des gens tout à fait experts pour voir si effectivement ils respectaient les règles relatives à la formation à la corruption dans leur entreprise, à la lutte contre elle, etc.
On parle de prise de conscience de la société civile et du grand public, du monde politique. On parle de la formation dans les entreprises et dans le milieu judiciaire. Catherine Pierce, je rappelle que vous êtes une ancienne magistrate. Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'il y a une sensibilité à ces questions sur la lutte contre la corruption ? Et est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de lutter efficacement contre ce phénomène ?
Très récemment, il vient d'avoir la création du parquet national financier, qui est quand même qui démontre bien que cette lutte contre la corruption et contre toute la délinquance financière est quelque chose d'important. Ce PNF qui vient d'être créé, qui comporte quand même déjà une vingtaine, pas tout à fait 20 magistrats, qui est en train de s'occuper d'à peu près 400 dossiers, qui a vu 150 dossiers de fraude fiscale, démontre bien effectivement, à qui on a donné quand même pas mal de moyens, bon, pas encore suffisamment par rapport à nos amis italiens ou allemands, mais démontre bien que la France est extrêmement attentive à cela et essaye de lutter contre cela. Et avec, outre le parquet national financier, je dirais qu'il y a une chose qui vient d'être créée aussi par la loi Sapin 2, c'est la convention judiciaire d'intérêt public qui permet que les entreprises françaises ne soient pas systématiquement condamnées par les juridictions américaines ou anglaises, mais puissent signer une convention en France. Grosse amende, HSBC vient d'avoir 300 millions d'euros d'amende, moyennant quoi, effectivement, l'engagement de coopérer à l'enquête, de désormais se tenir absolument, enfin d'avoir une véritable politique au sein de leur entreprise contre la corruption.
Ça, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une pression internationale que la France avance sur ces questions, notamment une pression américaine, puisqu'on a vu un certain nombre de sociétés françaises qui ont été condamnées aux États-Unis, Nicolas Bonucci.
Il y a absolument une pression américaine, les Américains ont une politique juridique extérieure dans le sens qu'il donne des bons points et des mauvais points. Mais je crois qu'aussi, il y a une vraie, et j'en reviens à votre question de départ sur la tolérance, il y a une vraie prise de conscience aussi de l'opinion publique française et de cette pression qu'on a eue pour Sapin 2 est très impressionnante. Et je voudrais en profiter pour donner des chiffres très très récents que mes collègues de la direction des statistiques ont élaboré dans un nouveau projet qui s'appelle Trust Lab, qui mélange les sondages classiques, les techniques d'économie comportementale et de psychométrie. Et ils ont notamment identifié un parallélisme et une divergence entre la France et l'Allemagne très intéressante. En 2007, sentiment d'intégrité du gouvernement en Allemagne, 32. Sentiment d'intégrité du gouvernement en France, 35, à peu près équivalent. Sentiment de corruption du gouvernement, 68 en Allemagne, 65 en France. En 2017, sentiment d'intégrité du gouvernement en Allemagne, 68, en France, 36. En France, c'est resté stable. Sentiment de corruption du gouvernement, 32. De 68, on est passé à 32. 32, c'est beaucoup plus bas. En France, on est passé de 65 à 64. Et mes collègues commencent à faire une corrélation entre ce sentiment de confiance et la croissance économique. C'est-à-dire que lorsqu'on a confiance dans l'intégrité de son gouvernement, des autorités publiques, on est aussi plus à même de prendre des risques, de monter des entreprises, d'aller de l'avant, parce que on pense qu'il y a des règles du jeu qui vont s'imposer à tous. Et l'effet, je lis mes collègues, l'effet du sentiment de corruption sur la confiance est 9 fois plus fort que celui de la conjoncture économique sur la confiance. C'est-à-dire que l'indice de confiance dépend beaucoup plus de la confiance qu'on a dans l'intégrité des institutions que dans les indicateurs de croissance économique. Et je trouve que c'est des données qui peuvent changer aussi radicalement la lutte contre la corruption dans le futur.
Est-ce que c'est et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Transparency International se base, ou en tout cas s'est longtemps basé, sur l'indice de perception de la corruption ? C'est-à-dire qu'il n'est pas une façon de quantifier de manière exacte ce qu'est la corruption, mais en tout cas le ressenti,
bien sûr,
est aussi important.
Bien sûr.
Catherine Pierce.
Ah, tout à fait. Et bon, c'est, comme vous le dites, c'est un indice de perception, donc qui n'est pas scientifique à 100%, hein, qui se fonde sur des études intéressantes, mais c'est effectivement un indice de perception, indice qui nous place au 23e rang. Ce qui n'est pas absolument glorieux pour la France, c'est nous avons bien le sentiment qu'il faut que nous fassions des progrès en cette matière, et c'est pour ça que nous interpellons pas mal nos dirigeants pour effectivement essayer de faire remonter cette confiance dans nos institutions, quelles qu'elles soient.
Et en même temps, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une forme de sentiment de fatalité face à ce phénomène, Carole Gomez ? C'est-à-dire que, je disais en ouverture, il y a beaucoup d'affaires, mais j'aurais pu en lister énormément d'autres dans l'actualité, affaires de corruption. On peut se dire aussi, finalement, c'est partout. Donc, c'est un système d'organisation de la société, alors certes, qui est loin d'être parfait, qui est un peu pervers, mais finalement, si la société, elle doit fonctionner comme ça, après tout, pourquoi pas ?
Ça, c'était la théorie qui avait été développée par un auteur qui s'appelle Mandeville, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait La fable aux abeilles de mémoire, et qui justement expliquait que la corruption était l'huile qui permettait des rouages. Ça a été démontré à la fois par la société civile, par les organisations internationales, par des études économiques qui ont démontré que ça ne pouvait pas marcher, qu'on dépensait plus dans la corruption, qu'on perdait de la confiance, qu'on perdait un certain nombre d'avantages qui auraient pu être présents s'il n'y avait pas eu la corruption. Et c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que le combat de la lutte contre la corruption est absolument pas fini. On a deux façons de voir les choses. Soit on est complètement fataliste et de se dire que ça ne sert à rien. Soit au contraire, on se dit qu'on a encore un certain nombre de choses à faire et à apporter. Il faut aussi avoir en tête que à chaque fois qu'il y a eu des nouveautés, des avancées sur le plan juridique pour la lutte contre la corruption, ça a été systématiquement, enfin non pas systématiquement, mais le plus souvent après des nouveaux scandales. Je tenterai un parallèle avec la lutte contre le dopage. Systématiquement, la lutte contre le dopage a réussi à avancer puisqu'il y a eu de nouveaux scandales qui ont éclaté et donc du coup on s'est rendu compte de la nécessité d'intervenir sur certains éléments.
Le PLF, mais en même temps, je vais vous dire, il y a de nouvelles façons de se doper. Et donc,
oui, en fait, c'est une course systématique, mais en même temps, de plus en plus d'éléments viennent permettre d'encadrer, de définir les différentes infractions et donc cette course soit est perdue d'avance, auquel cas quel est l'intérêt de la courir, soit on peut se dire qu'un certain nombre de choses peuvent être améliorées, on peut arriver à rendre moins tolérable la corruption, et c'est pour ça qu'il faut
Je crois que c'est un discours qu'on pouvait tenir il y a 10 ans, et effectivement, je pense que chez Transparency, notre discours il y a 10 ans, on nous disait que nous étions des doudingues, des rêveurs, mais c'est fini, on ne nous dit plus jamais ça, et je crois vraiment que, comme vous le disiez, il y a une tolérance qui n'est pas zéro, mais qui est en train quand même de devenir de moindre en moindre, et qui fait que des combats comme celui de l'OCDE, comme le nôtre, comme le vôtre, sont des combats qui vont avancer.
Ce qui est certain, c'est que le panorama international depuis 20 ans a changé, et a changé pour toujours. Je ne vois pas, je ne pense pas, je ne vois pas comment on pourrait revenir aux pratiques d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans.
Juste d'un mot d'ailleurs pour conclure, Nicolas Bonucci, parmi les pays de l'OCDE ou qui ont signé la convention, est-ce que s'il y en a un qu'on devait désigner comme particulièrement vertueux?
Non, je ne répondrai pas à cette question parce
vous
que
n'avez justement pas le droit.
C'est la mauvaise. Non, c'est pas ça, parce que je pense que c'est pas la bonne question. Justement, c'est pas la bonne question.
Bon, alors ça serait quoi le pire? Alors c'est peut-être ça la bonne question.
Dans chaque pays, il y a des poches d'intégrité et des poches de malhonnêteté. Et la question est de poursuivre à tous les niveaux et de se dire que la lutte contre la corruption, c'est comme un marathon et il faut continuer à le courir.
Bon, et ben merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Carole Gomez, je renvoie donc à Argensalle, à qui profite le crime que vous avez publié aux éditions Erol avec Sylvie Matelli. Merci Nicolas Bonucci et merci Catherine Pierce. Les indications des organismes des uns et des autres avec les programmes anticorruption, c'est sur notre site franceculture.fr. Dans 3 minutes, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte, n'est-ce pas Arnaud ?
Absolument, on parlera de bande dessinée, on demandera s'il y a de la corruption dans ce 9e art ou pas. On va poursuivre, on pourrait faire des émissions.
Il y en a partout, donc il n'y a pas de raison que la bande dessinée y échappe. Hein.
Je vais me renseigner auprès des critiques spécialisées qui vont entrer dans une studio dans un instant. Demain, dans du grain à moudre, Hervé.
Et bah demain, on va fêter un anniversaire Karl Marx à 200 ans.
Karl Marx, je vois, ça me dit quelque chose.
On se demandera si c'est l'âge de raison.
102 ans ?
200 ans.
Ah.
J'ai dit 102 ans ?
Non, je pense que
je voulais dire 200 en tout cas.
Je devais écouter autre chose. 19h, France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.